Mon message porte sur l'Église missionnelle et ceux qui voudraient bien avoir un petit temps de lecture cet été, je vous recommande ce livre de Timothy Keller qui s'appelle « Une Église centrée sur l'Évangile ». Et il y a tout un chapitre donc sur l'Église missionnelle. C'est un terme que je ne connaissais pas, avant que Luc Maroni en parle, parce que l'Église Connect se veut être une Église missionnaire. Donc je me suis intéressé à la question, et je trouve très intéressant. Alors je vous lis juste le démarrage de ce chapitre 19 de Timothy Keller. C'est après la publication du livre « Missional Church » en 98. Que le mot missionnel a commencé à devenir populaire. Dans les années qui ont suivi, il a été très largement adopté, donc ça fait plus de 20 ans, et son utilisation s'est généralisée. Beaucoup se demandent comment être vraiment missionnel. Une génération entière de jeunes responsables évangéliques a grandi en se mettant en quête de la véritable église missionnelle. Donc vous voyez, c'était une quête des pasteurs à être missionnels, comme si c'était une quête du Graal. Il semble qu'une douzaine de livres dont le titre contient le mot missionnel sortent chaque année. Donc depuis 20 ans, ça continue encore à être très très prisé. Mais l'étude de ces livres révèle que le terme revêt des sens sensiblement différents et reste utilisé de différentes manières par différents auteurs. Donc, du coup, confusion possible au sens exact de ce que veut dire missionnel. Avant la très large diffusion de ce mot dans tout le monde chrétien, il était employé essentiellement dans les cercles œcuméniques et protestants traditionnels, donc réformés, luthériens, etc. Méthodiste, voilà. En lien étroit avec l'expression latine « missio Dei », donc la mission de Dieu, « missio Dei ». À l'origine, cette expression a été inventée, donc c'est ce qu'on appelle un néologisme, hein, c'est un terme qui n'existe pas, d'ailleurs vous ne le trouverez pas dans le dictionnaire. C'est un terme qui a été inventé pour désigner l'enseignement de Karl Barth. Quels sont ceux qui connaissent Karl Barth, un théologien très connu, sur l'action de Dieu dans le monde. Et on a récemment, enfin on n'a pas tout à fait fini, le Garvey qui réécrit la vision action. Là, c'est la vision action de Dieu. Nous sommes censés agir un peu de la même manière que Dieu, bien sûr. Donc c'est pour ça que la vision action est un, et c'est pour ça qu'aussi ça nous intéresse, puisque cette église missionnelle est censée décrire l'action de Dieu dans le monde, comment Dieu agit dans le monde. Alors il y a tout à l'heure je vous montrais la photo de Leslie Newbegin qui est un révérend protestant réformé, mais évangélique. L'expression donc Missio Dei s'est répandue suite à la conférence missionnaire mondiale de 1952. Vous voyez, ça remonte avant 98, sauf que c'était répandu dans les milieux protestants, à Willingen en Allemagne. Il s'agissait d'une façon d'exprimer que Dieu est actif dans le monde, qu'il œuvre pour racheter toute la création et que la tâche de l'Église consiste à participer à cette mission. Et là, on ne peut être que d'accord. Donc, je trouve que c'est intéressant de s'intéresser à ce que c'est qu'une église missionnelle, d'autant plus qu'on est prévenu que si vous achetez des livres là-dessus, vous allez trouver certainement autre chose que ce que je vais vous enseigner, enfin, ce que je vais, disons, vous partager, parce qu'il y a différentes manières de décliner cette notion missionnelle. Donc, c'est quoi l'église missionnelle? Et ce terme est utilisé fréquemment dans le monde évangélique, donc c'est aussi bien de le connaître, puisque maintenant vous avez tous Internet et que vous êtes supposé chercher par vous-même, et si vous tombez là-dessus, vous pouvez savoir ce qui est vraiment à l'origine de l'église missionnelle et ce qui ne l'est pas. La réécriture de la vision, j'en ai parlé tout à l'heure, hein, nous a sensibilisés au contenu de la mission. Et la dernière chose que vous avez réécrite, c'est la mission, qui fait partie de la vision de l'action communautaire, puisque dans l'action, il y a les trois termes, appel, mission, devenir. Et la mission est un élément important. Mais la mission se trouve aussi dans les valeurs. Hier, on en a parlé ensemble. Il y a trois grandes choses qui vont se trouver sur le web, qui se trouvent, c'est qui sommes-nous ? Hein, souvent, qui sommes-nous ? Voilà. Quelqu'un qui cherche une église, qui sommes-nous ? Voilà, bon, on se présente. Quelle est notre vision ? Et puis, quelles sont nos valeurs ? Alors, les valeurs, on ne les a pas réécrites. Mais les valeurs aussi contiennent des choses qui sont différentes de l'action. Hein, quelles sont nos valeurs ? Qu'est-ce qu'on tient en valeur, comme dans chaque famille, il y a des valeurs, voilà, qui ont été transmises, qui sont reprises, etc. Dans une entreprise, il y a des valeurs, etc. L'Église, il y a des valeurs aussi. Quelles sont les valeurs de l'OPE ? Donc la mission, on va la retrouver aussi dans les valeurs. Alors, d'abord, un fondement biblique. Alors, si on prend 1 Pierre 2, chapitre 2, verset 9, je vous lis ce verset. « Vous, par contre, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple racheté, afin d'annoncer les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. » Voyez où Pierre, quand il écrit ça, il décrit l'identité de l'Église. Qui sommes-nous ? C'est l'identité de l'Église. En faisant allusion à des moments cruciaux de l'histoire d'Israël. Comme on a vu tout à l'heure, Jésus a tout accompli, mais il y a eu des promesses qui ont été faites dans l'Ancien Testament, qui se sont accomplies. Donc il y a des promesses de l'Ancien Testament, et donc ça fait un tout entre ce qui a été promis, ce qui est accompli, et ce qui va venir. Et donc on a tous les trois temps, passé, présent, à venir, hein, qui sont toujours présents. Et nous sommes dans le présent aujourd'hui, mais ce que je viens de dire, c'est déjà fini, puisque c'est dans le passé. Vous voyez, il n'y a rien de vraiment présent qui reste. Donc Pierre ici décrit, dans ce passage que je viens de lire, l'identité de l'Église, en faisant allusion à des moments d'Israël, à des moments qui ont formé son identité, et particulièrement dans Exode. Alors, il y a deux passages que je vais citer, Exode 19, chapitre 4 à 6, et Ésaïe 43, chapitre 43, de 20 à 21. Alors, si on prend Exode 19, 4 à 6, dans ce passage, eh bien, il y a la retranscription des paroles de Dieu à Israël au mont Sinaï. Lors de cette alliance que Dieu a fait avec Moïse, qui était le médiateur à ce moment-là, hein, après, dans le Nouveau Testament, c'est Jésus qui est le médiateur, et Moïse était sur le point de donner, et Dieu était sur le point de donner les 10 commandements à Moïse, et il leur explique comment ils devaient se considérer, et il précise la finalité de l'alliance. Vous voyez, on a parlé tout à l'heure du devenir dans une action, et bien là, c'est le devenir, c'est la finalité, c'est la même chose, la finalité de l'alliance. Et voilà ce qu'il dit. « Maintenant, donc c'est Exode 19, « Maintenant, si vous écoutez ma voix, et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez en propre, entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Quant à vous, vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. » Voilà un fondement de l'identité du peuple d'Israël et du peuple de Dieu, puisque nous, nous sommes simplement l'accomplissement de la promesse. Et quand Jésus est venu, il a tout simplement accompli effectivement cette alliance. Il y a l'ancienne et la nouvelle, sauf que les termes de l'alliance sont les mêmes. Je le relis parce que c'est absolument capital. « Maintenant, si vous écoutez ma voix, vous voyez, écoutez. » Et le culte est un moment d'écoute. On écoute la voix. Mais il n'y a pas que le culte. Le culte personnel, vous écoutez la voix. Mais quand vous lisez la parole, il faut l'écouter. Il faut un temps d'écoute. Il ne faut pas juste lire sous prétexte de lire. Donc, écoutez ma voix. Et si vous gardez mon alliance, c'est quelque chose de très objectif, garder l'alliance. ce qu'est l'alliance des 10 commandements, c'est tu feras ceci, tu feras cela. Vous voyez, il y a deux volets pour Dieu et pour les autres. C'est à ce moment-là que vous m'appartiendrez en propre. Et c'est pour ça que j'aime à dire que la maison bâtie sur le roc, c'est quoi ? Voilà, parce que beaucoup disent Jésus. En fait, c'est faux. C'est la maison bâtie sur le roc, hein, y a bien d'autres moments où on parle de Jésus, là, et on ne parle pas de Jésus, on parle du fait, c'est l'enseignement de la parole, qui dit que la maison va être bâtie sur le roc si nous pratiquons la parole, si nous mettons en pratique la parole. C'est l'alliance, vous voyez ? Parce qu'on peut parler de Jésus, vous savez, la parole dit, il y en a qui vont dire Jésus, mais je ne vous connais pas. Bon, voilà. Donc c'est pas de la magie, c'est pas un mot magique, Jésus, parce que tout le monde peut le dire, mais c'est si vous gardez mon alliance. C'est-à-dire que si vous mettez en pratique ce que je vous dis, et si vous êtes fidèle à cela, vous m'appartiendrez. Donc vous voyez, la notion d'appartenance, c'est pour ça qu'on parle de relation avec Dieu. Est-ce que j'appartiens à Dieu ? Est-ce que je suis dans une église ? J'appartiens à Dieu. Je peux appartenir à une église, mais pas appartenir à Dieu. Et je disais hier aux anciens, ne vous méprenez pas, c'est pas parce que quelqu'un est dans une église évangélique qu'il est né de nouveau, qu'il appartient à Dieu. Ça ne marche pas comme ça. Ça, c'est des églises qu'on appelle de multitude. À partir du moment où on a décrété effectivement qu'il y a un roi, une religion, ce qui était le cas un petit peu dans tous les royaumes qui voulaient avoir la paix, vous avez la même religion que le roi, comme ça, il n'y a pas de guerre de religion. Voilà. C'est assez fort parce que, vous savez, régulièrement on a des combats spirituels dans les églises, et une fois, le trésorier, il avait reçu une recommandation comme quoi on devait payer 3000 euros d'impôts à Mantes, au Muro, à l'hôtel des impôts. Et puis moi qui étais président, et puis je travaillais là au passage, je dis bon, c'est une blague quoi, tu payes pas bien sûr, et on laisse passer quoi, parce que c'est une blague, aucune église en France ne paye d'impôts. Et puis en fait c'était pas une blague, parce que l'année d'après, c'est plus 3000, c'est 6000, et là vous êtes convoqué, etc. Bon. Je dis, attends, c'est une blague, quoi. Enfin, c'est pas possible, quoi. Alors, je l'ai envoyé à Versailles, c'était à Versailles. Et en fait, il est revenu bredouille. Il dit, non, c'est le fonctionnaire qui. Parce que, oui, non, c'était au Muro. Le Muro a été renvoyé. Il dit, nous, c'est pas nous, c'est Versailles. Hein, c'est pas. C'est eux qui nous disent ce qu'il faut faire et pas. Donc, il est allé à Versailles, il est revenu bredouille. Il a dit, non, vous payez des impôts, bon, c'est quoi ce truc-là ? Troisième année, 6 000 ou 7 000 euros, enfin. Alors je dis, bon, ben là, il faut que je prenne un congé à mon travail, mais j'y vais, mais le gars, il ne me démordait pas. Je dis, mais comment ça se fait ? Ah ben, j'ai appris qu'il est venu en catimini, alors que, l'église était ouverte, hein, bon, il est rentré. Et il a sorti son maître, et il a pris des mesures, il a mesuré les WC, il a mesuré les couloirs, il a mesuré les trucs, et il m'avait montré, eh bien voilà, vous avez 30% de vos locaux qui ne sont pas utilisés en culte. Je dis, et alors monsieur ? Ah ben, c'est taxé, il faut payer des impôts là-dessus. Je dis, ah bon ? Donc ça fait 3000 euros par an. J'ai dit, attendez monsieur, vous savez que ça existe, hein, les lois sur le culte, loi 1905 et tout, voilà. Et puis à un moment donné, il s'est énervé. Il a dit, « Monsieur, vous n'allez pas recommencer les guerres de religion ?» J'ai dit, « Quoi ?» Vous voyez, tout de suite, c'est les grands trucs, etc. Mais bon, j'ai compris, parce que vous savez, un discernement, ça aide beaucoup, que c'était un jeune qui avait 32 ans, et son ambition, il avait des dents qui raclaient le plancher. Tellement c'était, il avait des dents longues, donc il voulait se faire mousser auprès de sa hiérarchie, et s'il avait réussi à nous taxer, il aurait gagné effectivement en galon, parce qu'il aurait pu étendre ça à toutes les églises, vous voyez, les recettes fiscales qu'il aurait eues. Donc j'ai demandé à voir son patron, j'ai jamais eu, il n'a pas voulu. Voilà. Enfin bref, je termine l'histoire, elle s'arrête à un moment donné, mais j'ai dû avoir la grâce du Seigneur pour nous en sortir. C'est juste pour dire qu'on est tout le temps. Là, c'est une attaque, mais on en a eu énormément d'autres. Tout ça pour dire que, effectivement, l'Église est quelque chose qui va être attaqué comme Jésus l'a été. Si on pense que l'Église, un jour, va être, c'est un pétale de rose, on se trompe complètement. L'Église sera toujours martyre, sera toujours martyre. Parce que Jésus était martyr. Martyr, ça veut dire se donner sa vie. Voilà. Si on veut donner sa vie, il faut accepter de la laisser entre les mains de Dieu, comme on a évoqué ça tout à l'heure, dans le fait de donner sa vie au Seigneur. C'est le sens de martyr. Cette alliance que Dieu veut avec nous, c'est qu'on lui appartient en propre, mais en lui appartenant en propre, on est ennemi du monde. Parce que le monde, il le rejette. Le monde l'a rejeté, y compris le monde religieux de l'époque. Même les chefs religieux juifs l'ont rejeté. Et bien sûr, Hérode et Pilate également. Et aujourd'hui, l'Église est toujours rejetée. Et elle sera toujours rejetée. Elle ne sera acceptée que lorsque celui qui est le grand comploteur, Satan, sera enfermé. Il n'y a pas d'autre alternative. Parce que sinon, ça veut dire qu'on serait plus grand que Jésus. Vous voyez ? Satan, il est encore à liberté aujourd'hui. Mais quand Jésus va revenir, il le mettra en chaîne dans un premier temps, et ensuite après, totalement, définitivement. Et là, nous serons libérés. Donc en attendant, il faut qu'on ait le même souci d'être témoin, mais en sachant que le message n'est pas accepté comme ça, et vous le savez très bien qu'il n'est pas accepté comme ça aussi facilement. Donc vous m'appartiendrez en propre entre tous les peuples. Donc il y a une exception de ceux qui acceptent, il faut l'accepter, c'est une identité, c'est notre identité, car toute la terre est à moi. C'est ça l'application de ce principe. Alors, Israël a été appelé à un royaume de prêtres. Habituellement, le rôle de prêtre, il est double. Dans l'économie d'Israël, il y a les scribes, qui sont prêtres, qui sont les lévites, qui doivent révéler Dieu au peuple. Donc ils doivent connaître la parole, ils doivent l'interpréter, ils doivent la communiquer, c'est leur rôle, et c'est un rôle à 100%, c'est-à-dire que les scribes faisaient que scribes. Et d'ailleurs les lévites, ils n'avaient pas de royaume, ils devaient être soutenus par toutes les autres tribus venaient au secours des Lévites pour qu'ils puissent se nourrir, etc., parce qu'ils étaient à plein temps pour le service du Seigneur. Donc les prêtres, il y avait la catégorie des scribes et la catégorie des sacrificateurs, ceux qui offraient des sacrifices, ceux qui étaient à l'entrée du tabernacle, qui recevaient les Israélites avec leurs sacrifices, qui apportaient les sacrifices, et ça c'est tous les jours. Tous les jours, il y avait les Israélites qui venaient apporter ça. Parce que sans sacrifice, on ne peut pas accéder à Dieu. Voilà. Donc il fallait des sacrifices, mais il fallait la parole, il fallait l'alliance, il fallait aussi connaître l'alliance et aussi savoir pourquoi on a péché, pourquoi il faut ce sacrifice, etc. Voilà. Et aujourd'hui, dans l'Église, il y a la même chose. Aujourd'hui, il y a des personnes à plein temps aussi, en particulier Pierre-André, moi-même, Michel, Florence, qui sont là aussi pour connaître la parole, de manière à pouvoir l'appliquer, la faire appliquer, l'évoquer, etc. Voilà, c'est en soi une compétence qui est donnée d'ailleurs, des dons qui sont communiqués aux hommes, c'est Éphésiens 4. Et monsieur le professeur Nicole l'a rappelé toute la semaine dernière, au départ du frère Hubo. Donc désormais, la communauté tout entière d'Israël doit être une communauté de prêtres pour révéler Dieu aux nations C'était ça le sens du choix que Dieu a fait sur Israël, hein, à partir d'Abraham, Isaac, Jacob et Israël, dont le nom a été changé, pour révéler Dieu aux nations. Les Israélites, les Juifs ont oublié cela, que Dieu les avait pas choisis pour eux-mêmes tout seuls. Ils avaient choisi pour évangéliser. D'ailleurs, on a énormément d'ouvertures, Ruth, Boaz, enfin toutes les ouvertures où Dieu veut qu'Israël ne vive pas pour eux, mais pour les nations. Et malheureusement, ils se sont refermés sur eux-mêmes, comme nous nous refermons sur nous-mêmes. Et c'est pour ça que l'église missionnelle, c'est une église ouverte. Mais j'anticipe un peu sur ce que je vais vous enseigner plus tard. Donc Israël est une communauté de prêtres qui doit révéler Dieu aux nations et appeler celles-ci à obtenir l'expiation par le sacrifice. C'est-à-dire qu'ils devaient donner l'exemple, que même ils apportaient des sacrifices vers Dieu, et enseigner cela aux nations, qui d'ailleurs font des sacrifices aussi à leur Dieu. Mais là, souvent c'est des sacrifices humains qu'ils font. Là, Dieu n'a jamais demandé des sacrifices humains. Au contraire, c'était une abomination. Donc, c'était le rôle d'Israël. En faisant référence au sacerdoce royal, donc Pierre, l'apôtre Pierre, hein, pense à ça, et il va plus loin. Et il va plus loin que d'affirmer la doctrine de la réformation concernant le sacerdoce des croyants. Vous voyez, la réforme protestante a dénoncé ce que le catholicisme avait donné à des prêtres, comme aujourd'hui encore ça existe, les prêtres, un peu comme les lévites. Or, le Nouveau Testament, ce n'est pas la réplique de l'Ancien, puisqu'on est dans l'accomplissement. Et donc, c'est l'ensemble des croyants qui sont des prêtres. Mais l'Église catholique est restée dans l'idée de remplacer Israël. Ça s'appelle la théologie du remplacement. Et donc, voilà, aujourd'hui, beaucoup de gens et beaucoup de chrétiens, il faut le rappeler dans une église évangélique, qu'on est tous prêtres. Mais Pierre va plus loin que simplement de réformer le sacerdoce de ses croyants. Il évoque là, dans ce passage qu'on vient de lire, l'identité communautaire en tant que peuple. Notre identité. Quelle est notre identité? Eh bien, notre identité, c'est d'être un peuple de sacrificateurs dont la vie, dans tout son ensemble, glorifie l'excellence de son royaume, l'excellence de son règne. Dieu règne, mais il règne par sa parole, et il gouverne par sa parole et par son esprit ceux qui l'acceptent. Comme je disais, dans le millénium, c'est différent. Ceux qui ne l'acceptent pas, ils seront enfermés pendant un temps, et ensuite dans l'éternité, définitivement. Mais aujourd'hui, l'Évangile est proposé, y compris dans les églises, pour qu'on puisse glorifier le Seigneur dans notre vie, toute notre vie, pas juste le dimanche matin, mais la semaine et tout le temps, pour le glorifier et glorifier l'excellence de son royaume. De la même manière, le peuple de Dieu doit être une nation sainte, tout comme Dieu lui-même est saint. Il faut qu'on reflète l'identité de Dieu, qui est saint. Et nous aussi, nous devons être saints. Il doit refléter et manifester le caractère de Dieu, la façon de vivre de son royaume, qui doivent être rendus visibles. Un chrétien qui veut honorer l'alliance qu'il a faite avec Dieu, il doit rendre visible dans sa manière de vivre qui il est. Dieu est en train de construire un endroit sur terre, donc c'est l'Église, où l'excellence et la liberté de son royaume sont rendues visibles. C'est ça qui doit être une Église, c'est ça une Église missionnelle. C'est-à-dire qu'on doit pouvoir dire, comme ça a été dit des premiers de l'Église primitive, regardez comme il. Il n'y a qu'une personne qui connaît la parole, c'est Marie-France. Dans l'Église primitive, qu'est-ce qu'il disait autour? Regardez comme. Encore une fois. Regardez comme il. Ça veut dire quoi, comme il sème? c'est une vie de communauté qui parle. On va pas acheter, voyez, un bandeau lumineux pour mettre dans l'église en disant regardez comme ils s'aiment. Hein, ouais. Il faut que les gens le disent en disant c'est incroyable. C'est incroyable comment ils s'aiment, tu vois, dans cette église. Et il faut que ce soit dit dans toute la communauté aux alentours et tout ça. C'est ça, l'église, notre identité. C'est ça, notre point de visée, si vous voulez, qui devrait nous préoccuper. Au lieu de nous préoccuper de tout un tas de choses, bon, voilà, qui sont secondaires, ça, c'est capital. Ça a été le témoignage des premiers chrétiens. Et c'est l'objectif de Dieu, que ce royaume dont on parle, Dieu règne, ok. Mais qu'est-ce qu'il produit ? Il produit du fruit, c'est l'amour. Et l'amour, c'est quelque chose qui est communicatif et qui témoigne par lui-même. Il n'y a pas besoin d'avoir un haut-parleur pour dire « regardez comme on s'aime ». Il faut que les gens viennent et qu'ils soient frappés de cet amour. Alors c'est d'autant plus manifeste qu'aujourd'hui, par rapport à il y a 50 ans, il y a beaucoup plus de personnes différentes. On a des personnes de l'Afrique, de la Corée, du Brésil, maintenant il y a des Portugais, etc. Voilà. Et c'est plus difficile encore de s'aimer. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas la même culture. Quand on a la même culture, vous voyez, ce qui est église ethnique ou église culturelle, voilà, c'est plus facile. Mais quand on a une culture différente, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut... Pour s'aimer, il faut accepter de laisser sa culture et d'adopter la culture du royaume. Et ça, c'est beaucoup plus difficile. Parce qu'il faut déjà passer par un abandon avant d'accepter le suivant. Et c'est toute la difficulté des églises. Donc les églises préfèrent faire des projets effectivement qui rassemblent, etc., plutôt que de devenir missionnels. C'est-à-dire de transmettre par la vie et par les fruits eh bien, le royaume auquel nous prétendons appartenir, et nous lui appartenons, mais c'est garder l'alliance. Donc l'intention, déjà, de la loi, hein, puisqu'on parle de la loi, la loi, Moïse n'a plus sous la loi, mais déjà l'intention de la loi est missionnelle. Quand Dieu donne la loi, vous accepterez cette loi à Israël, eh bien c'était déjà l'objectif d'être missionnel, d'être témoin vers les nations, qu'il se passe quelque chose en Israël où les gens s'aiment. Ce n'est pas toujours ce que Israël a manifesté, surtout en ce moment, quand vous regardez un peu ce qui se passe en Israël. Ce n'est pas un témoignage qu'ils apportent à l'intérieur de leur propre communauté. Donc elle décrit une vie communautaire distincte du monde qui attire les nations à Dieu. Il faut qu'on soit attirant. Allô ? Vous avez envie d'être attirant ? Ah ben, c'est l'amour. C'est les fruits de l'amour qui vont attirer les gens parce qu'ils ont besoin d'amour. Tout le monde veut de l'amour. Tout le monde veut de l'amour. Mais est-ce que nous, on va leur donner ? Mais on pourra leur donner que si nous, on abandonne notre ego, notre égoïsme. Et c'est ça le plus dur. Alors, le deuxième passage, donc ça c'est Exode 19, c'est Ésaïe 43. Alors, voilà ce que dit Ésaïe 43. Dieu déclare, « J'aurai mis des eaux dans le désert, des fleuves dans la terre aride, pour abreuver mon peuple, mon élu. Le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. » Il publiera mes louanges. Et vous, c'est de publier les louanges du Seigneur. Et j'ai hâte qu'on puisse reprendre les Moving Glan, ces temps de louanges aussi, d'adoration. Alors, Ésaïe anticipe l'exil du peuple de Dieu à Babylone. D'ailleurs, l'apôtre Paul appelle l'Église celle qui est à Babylone. Vous voyez, c'est assez étonnant Pierre utilise cette image, mais c'est parce que justement il fait référence à l'exil. Nous sommes en exil. Nous attendons la terre promise, le Canaan, que Dieu nous promet. Et donc aujourd'hui, nous sommes en exil parmi les nations. Donc Ésaïe anticipe l'exil du peuple à Babylone, exil dans lequel Pierre place ses lecteurs, dans ce qu'on a lu tout à l'heure dans 1 Pierre 1, chapitre 5, verset 13. Moïse avait prévenu, L'exil était la malédiction qui allait s'abattre sur Israël. Si Israël échouait à être une lumière pour les nations, pour sa fidélité à l'Alliance. Alors là, vous avez le passage de Deutéronome 28, 49, 68. Isaïe affirme pourtant que Dieu conduira son peuple à travers un nouvel exil. C'est celui que nous vivons. Celui qui avait guidé son peuple au milieu de la mer Rouge, celui qui leur avait donné à boire dans le désert, fait une chose nouvelle. Isaïe 43, verset 16. Pierre a d'ores et déjà assimilé la mort de Jésus à une nouvelle Pâque, un nouveau passage, hein, dans 1 Pierre 1, 18. Et c'est par Jésus que le peuple racheté de Dieu est transformé afin de proclamer ses louanges. Le Seigneur veut nous transformer pour que nous annoncions ses louanges, pour que nous annoncions sa gloire, pour que nous puissions être un peuple témoin de ce que Dieu fait, des merveilles que Dieu fait au milieu de nous. Vous savez, c'est plus facile pour une église de vivre des miracles, c'est super. Hein. Mon épouse a été au bénéfice de ces miracles dans l'assemblée de Pentecôte. Mais ce n'est pas le plus important, et souvent, les gens qui sont miraculés ne s'attachent pas toujours au Seigneur. Ceux qui s'attachent au Seigneur, c'est ceux qui veulent aimer le Seigneur de tout leur cœur, de toute leur force, de toute leur pensée. Mais les miracles, c'est super, ça manifeste la gloire de Dieu, mais souvent, ce n'est pas ça qui nous attache à lui. Ce qui est plus important, le grand miracle, c'est les gens qui se donnent à lui. Et c'est pour ça que c'est si merveilleux d'entendre des témoignages comme on en a eu de baptême. Alors Pierre déclare que cette identité, donc là on parle d'identité missionnelle, de cette identité dont je viens de parler, est accomplie dans l'Église. Voyez-vous, cette identité, ce qui nous sommes, nous devons être cette Église missionnelle, est accomplie dans l'Église. Et de fait, il utilise ces allusions, donc Pierre dans l'Ancien Testament, dans son exhortation aux chrétiens. Il dit « Bien-aimé », donc ça c'est chapitre 2, verset 11 de Pierre, « Bien-aimé, je vous exhorte, en tant qu'étranger et voyageur, à vous abstenir des désirs charnels qui font la guerre à l'âme. Au milieu des païens, et nous sommes au milieu des païens, ayez une bonne conduite afin que, là où ils vous calomnient, comme faisant le mal, ils voient vos œuvres bonnes. Et ils glorifient Dieu au jour de sa visite. » Voyez-vous, on ne peut pas provoquer une conversion. Dieu visite les gens, parfois immédiatement, parfois après, peu importe. Et vous savez, très souvent, peut-être c'est votre témoignage personnel, c'est qu'il y a quelque chose qui vous parle à un moment donné et qui fait le travail deux jours, trois jours après, etc. Voilà, quelque chose qui vient de l'esprit. Hein. Donc au jour de la visite, où Dieu vous visite, eh bien, il y a ce contenant de cette témoignage, de ce témoignage de l'Église, d'un frère, d'une sœur, de ce que vous avez vu, etc., qui vous parle de la présence du royaume. Les chrétiens sont appelés à révéler Dieu dans leur vie et dans leurs actions. Pas uniquement dans leurs actions, mais aussi dans leur vie. Donc l'identité missionnelle, eh bien, nous identifie à celle de Dieu lui-même qui est en mission. Et c'est là que je vais arrêter aujourd'hui. C'est ce qu'ils appelaient dans les années 50 la Missio Dei. Dieu est en mission. En effet, si vous regardez la Bible de la Genèse à l'Apocalypse, en fait, Dieu est en mission. Voilà. Sa mission, au travers du Père, du Fils et de l'Esprit, donc une action commune, communautaire, hein, c'est que Dieu a voulu redonner la place à l'homme qu'il a perdu dans le jardin d'Éden, où il était en relation avec Dieu, où il communiquait avec Dieu, où le règne de Dieu était sur sa vie, et il a tout gâché en suivant une autre parole, celle qui a été dictée par Satan, celui qui fait douter de la parole de Dieu. Et il a suivi une autre parole. Alors qu'il était prévenu en disant, si tu suis cette parole, eh bien, tu ne pourras plus bénéficier de cette communion. Et jusqu'à l'Apocalypse, où les choses sont rétablies par la venue de Jésus. Et c'est ça ce qu'on appelle Dieu est en mission. Et pas uniquement en mission du salut de l'homme. C'est pour ça qu'il dépasse l'Église. L'Église, c'est les hommes. Mais il veut aussi racheter la création tout entière qui soupire. Nos corps, ils soupirent. Ils soupirent après cette bénédiction que Dieu a voulu. Il nous a pas fait pour souffrir. Il nous a pas fait pour mourir. Il nous a pas fait pour avoir des ronds, des épines. Ceux qui ont des jardins savaient qu'il faut tout le temps. Non. Mais il a dit, c'est une malédiction à cause d'avoir rompu cette alliance de ma parole. Tout ça, ça va revenir, mais en attendant, nous sommes en exil. En attendant, nous attendons ce retour. En attendant, il nous faut persévérer, mais nous devons avoir l'identité d'une église missionnelle, l'identité d'hommes et de femmes qui avons une manière de vivre, une manière d'être qui glorifie le Seigneur. Et si nous ne l'avons pas, eh bien, voilà, des temps de repentance que nous avons vécu, que nous vivrons également par la suite, c'est de revenir à Dieu, de revenir à cette mission, de revenir à ce que Dieu est en train de faire, pour être avec lui. Le Seigneur nous attend. Il a dit, mais j'attends, je souffre, je languis après cette génération pour qu'elle puisse me suivre. Et il a fait ça avec Israël, il l'a fait avec l'Église, et il continuera à le faire. Mais c'est à nous de dire, Seigneur, oui, je suis là. Utilise-moi et glorifie-toi au travers de ma vie. Je vous invite à la prière. Seigneur, nous croyons que, Seigneur, tu as suscité un peuple, celui que nous sommes, par la nouvelle naissance, non pas simplement pour notre bien à nous, bien sûr, c'est l'objectif premier, mais aussi pour que nous puissions être témoins de ta présence, de, Seigneur, ce que tu as fait pour les hommes, pour ceux qui, autour de nous, peut-être des conjoints qui n'ont toujours pas compris cela après tant d'années de présence avec leur conjointe. Et puis, Seigneur, que tu leur parles, que tu les visites. Que tu les visites, Seigneur. Parce que tu as dit, au temps de la visite, eh bien, ils auront leur cœur ouvert. Donc, c'est à nous de préparer leur cœur à le recevoir, qui n'est pas un mauvais témoignage. Pourquoi les Français sont si fermés à cause de tout ce qu'ils ont subi, souvent dans les organes, institutions religieuses. Mais Seigneur, donne-nous la grâce, en tant qu'Église, d'être une communauté d'amour, où les gens aient envie de venir, où ils courent en disant « Regardez l'Église au Père Jeanville, venez, 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 regardez ce qui se passe. » Voyez, c'est pas que nous devons être une attraction pour les autres, mais nous devons les attirer par l'amour et rester dans l'humilité, que ça ne nous monte pas la tête. Et c'est ça le plus grand danger. Parce que nous sommes tellement orgueilleux, tellement pleins de nous-mêmes. Seigneur, donne-nous de voir ces choses, nous le croyons, pour ta gloire. Et que tu nous gardes dans l'humilité, afin que ton nom soit glorifié. Nous te prions au nom de Jésus. Amen.